et messieurs, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle émission de l'étudiantaille. D'abord et avant de commencer notre émission, j'aimerais souhaiter une bonne journée à toutes les femmes qui nous écoutent. Même si c'est un peu tard, comme on est le 10 mars aujourd'hui et la journée internationale des femmes était mardi dernier, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais.
Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas de jour précis pour dire bonjour, pour souhaiter une bonne journée aux personnes qui nous écoutent. Et oui, parce que c'était la journée de la femme, mais c'est aussi le mois du genre à l'Université d'Angers, et peut-être même dans la ville d'Angers, je ne suis pas certain de jusqu'où ça s'étend, mais le mois du genre qui, à l'université en tout cas, est un moment où on va avoir beaucoup de conférences, d'ateliers, etc., sur l'étude du genre, sur que ce soit donc le genre masculin, féminin, tout ce qui va être des personnes en transition, tout ce qui va être de l'homosexualité, de tout ça, ce qui est très intéressant, et ce qui donc est complètement lié avec la journée de la femme, puisque être une femme, c'est un genre, être un homme, c'est un genre, etc. Enfin, c'est complexe toute cette question, mais ça fait partie du genre.
Oui, et du coup, juste pour avoir une idée, parce que j'étais pas au courant de cette journée, de cette semaine.
C'est un mois, carrément. Eh oui.
Et du coup, juste une question, parce que j'étais pas au courant de ce mois du genre. Qu'est-ce qu'elle propose l'Université d'Angers? C'est des conférences,
C'est ça. En fait, il va y avoir des conférences, il va y avoir des intervenants extérieurs qui vont venir pour des activités. On a, je crois, à la bibliothèque universitaire aussi beaucoup de livres qui sont mis en avant là, sur toute la question du genre, du féminisme, parce que faut pas oublier qu'à Angers, à la bibliothèque universitaire d'Angers, nous avons le Centre National d'Archives du Féminisme, donc on a vraiment beaucoup de ressources. C'est un mois qui est spécialement là-dessus. Par exemple, moi donc je suis en études d'histoire et notre enseignant a profité de ce mois du genre pour faire intervenir une enseignante de Nantes pour parler en lien avec son cours d'un homme qui avait pris possession plus ou moins d'esclaves américaines machin, et en fait sous le procès qui avait été intenté à cette personne, il y avait la question de qu'est-ce que être une femme en Amérique à cette époque, et encore plus qu'est-ce que être une femme esclave. Et donc là, c'est toute la question du genre, en fait.
Ok, d'accord. Donc, on n'hésite pas à inviter nos auditeurs, surtout les étudiants, à en profiter et à assister à ce genre de conférences. Ça apporte toujours du plus.
Exactement.
De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du jardin des plantes. Un joli petit bout de verdure où il y a des canards, des chèvres, 4 hectares de terrain et le tout en plein centre-ville. Et parsemé de très jolies plantes, de très jolies fleurs, des arbres, etc. Ça me permettra de vous parler un petit peu des fleurs aussi, de leur origine.
Ah, intéressant. J'ai hâte de découvrir ton sujet en détail. Pour ma part, je vais vous parler, chers auditeurs, d'un sujet un petit peu spécial que j'ai choisi à l'occasion de la Journée des Femmes. Il s'agit de quelques astuces pour faire face au sexisme professionnel. Parce que oui, le sexisme existe encore en 2022. En tout cas, nous aurons le temps d'y revenir plus en détail. Donc voilà rapidement le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de l'émission pour écouter les sujets qu'on vous a préparés. Et pour notre première pause musicale, on vous laissera avec Amado Mio, chanson de Pink Martini.
Wanting to hold you. many times I whisper.
Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Radio G101.5 FM avec l'émission Étudiant Time. Maintenant, on va parler des actes sexistes que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne et en particulier dans le milieu professionnel.
Qu'on rencontre même trop souvent parfois. Donc heureusement qu'il y a des personnes comme toi, Rim, pour sensibiliser un peu à tout ça.
Oui, et ce qui est le plus dangereux, Robin, je pense, c'est que en général, notre entourage ordinaire de connaissances, de proches et d'amis, c'est nous qui le choisissons. Par contre, l'entourage professionnel, c'est un entourage qui nous est d'une façon ou d'une autre imposé. Donc parfois, on se trouve obligé de collaborer avec des personnes qui peut-être nous manquent de respect, qui pourraient nous vexer ou nous mettre mal à l'aise. Donc d'où l'intérêt de se rendre compte de ce genre d'actes sexistes et de trouver des astuces pour les éviter. Alors tout d'abord, il faut savoir que le sexisme professionnel peut apparaître sous différentes formes. Une blague lourde, une question intimidante, une remarque mal placée et même parfois des décisions injustes et sexistes au travail. Sachant que d'après l'étude du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, 80% des femmes salariées considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes dans le monde professionnel. Donc pour illustrer un peu tout ça, voici quelques exemples d'actes sexistes qu'une employée peut rencontrer au quotidien. Tout d'abord, on pourrait parler d'un collègue qui à chaque fois qu'elle a un problème ou un désaccord avec lui, il considère que sa réaction est assez exagérée et qu'elle est sûrement liée à des perturbations hormonales, par exemple.
Ah, le fameux « Ah, mais c'est tes règles !» Ah oui, oui, le fameux.
Ouais. Oui. Et du coup, pour lui, ce n'est lié à aucun moment au problème direct qu'elle a avec lui. Et il y a également les personnes qui considèrent que les femmes ne sont pas faites pour occuper des postes de cadre ou des postes de décision. Ce genre de personnes auront en général tendance à faire des jugements de valeur au lieu de jugements de fait à leurs collègues femmes, surtout quand ils ne sont pas d'accord avec elles sur le plan professionnel. Par exemple, ils pourraient dire à leurs collègues femmes dans ce genre de contexte « Non, mais t'es très émotionnelle, ta décision n'a pas été pertinente ». Et d'ailleurs, en parlant de ce genre de commentaires, il y a une petite anecdote qui me revient. En fait, une fois, j'étais en train de parler à une personne, une connaissance, à propos de mon projet professionnel. Et du coup, cette personne, en pleine discussion, m'avait dit que le métier d'ingénieur n'est pas fait pour une femme.
Oh, bah yes.
Et malheureusement, c'était une femme qui m'a dit ça. Donc j'étais choquée en mode, je savais pas qu'il y avait des métiers pour des femmes et des métiers pour des hommes.
Mais si, c'est bien connu, jouer à la poupée pour les filles, jouer au maçon et au constructeur, ouais, pour les hommes, ouais.
Le rose pour les filles et le bleu pour les hommes.
Et oui. D'ailleurs, parenthèse évidemment, beaucoup de gens le savent, mais il y a 70 ans, il y a 100 ans, c'était l'inverse, c'était le rose pour les garçons, le bleu pour les filles.
D'accord.
Comme quoi, les représentations sociales changent au fil du temps.
Ouais.
Mais ouais, des métiers pour les femmes, ah là là, génial.
Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça. Donc, ils pensent par exemple que les spécialités un petit peu basées sur le rationalisme, comme les maths, la programmation ou autres, sont faites pour les hommes, alors que la biologie, les langues, etc., c'est fait pour les femmes. Comme quoi, les hommes sont plus rationnels que les femmes. Et on pourrait parler également, dans le cadre des actes sexistes, des remarques lourdes et impertinentes que certains collègues sexistes peuvent avoir et qu'ils peuvent dans certains cas passer sous forme de blagues. Du genre, est-ce que vous voulez vraiment parler de l'égalité salariale alors qu'on travaille plus que vous ou qu'on est plus performant que vous? Ou bien, les femmes n'ont pas de sens de l'orientation de toute façon? Ou par exemple, t'as pas intérêt à tomber enceinte dans les prochains mois, ça va être un péril de la boîte. Pourtant, il faut savoir que le sexisme ordinaire au boulot est complètement illégal, puisque le code du travail condamne tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En plus, l'auteur de tel agissement peut être sanctionné disciplinairement par avertissement, blâme ou même licenciement. Cependant, cela ne résout pas forcément le problème, comme évidemment aucune employée ayant vécu des expériences pareilles n'a envie de passer sa vie dans le bureau des RH à déposer des plaintes. C'est pourquoi nous allons vous proposer, mesdames, quelques conseils pour confronter ce genre d'actes sexistes au travail. Tout d'abord, il faut réagir avec fermeté et dès que possible. Donc si vous n'aimez pas la blague ou vous la trouvez sexiste ou dévalorisante, vous n'êtes pas obligé de rire. Deuxièmement, manier l'humour pour répondre aux remarques sexistes.
Donc, j'ai découvert grâce à un humoriste très sympathique, Haroun. Haroun qui justement avait subi un... Il s'était retrouvé dans la situation où c'était le seul homme dans un conseil de femmes. Il était un humoriste, il était là en mode « Ah, vas-y, le clown, fais-nous rire !» Et les femmes étaient un peu en mode « Ouais, il a un petit cul, celui-là ouais, !» ouais. Et il s'est senti très gêné. Et du coup, il a, dans un spectacle qu'il fait maintenant, il donne un peu des conseils en disant « Eh ben, si jamais, mesdames, enfin, messieurs, si jamais vous n'avez pas de chance, vous aussi, mais... si jamais, mesdames, vous vous trouvez dans cette situation où quelqu'un vous dit « Ah, et ben moi, j'aimerais bien voir un petit peu sous la jupe de madame ou je sais pas quoi, c'est une belle blague, oh, c'est une blague très lourde », bah tu réponds juste premier degré en disant « j'ai pas compris, parce que tu veux vraiment me soulever ma jupe, en fait, tu veux m'agresser sexuellement. » C'est... Voilà, répondre premier degré.
Exactement, Robin, c'est justement mon troisième conseil. Il s'agit de jouer la naïve et faire répéter les remarques sexistes.
Oui, oui.
Et c'est assez gênant et intimidant pour la personne qui sort ou qui ose sortir ce genre de blagues sexistes et sexuelles. Et justement, ça lui montre que ses propos, ils sont intimidants. Quatrièmement, il s'agit de faire dévier la conversation ou la clore. Donc cela dépend des techniques que préfère chacun utiliser. Mais c'est vrai que si on est capable de le faire, c'est une belle technique parce que ça te permet de t'éloigner de la confrontation et de la négativité ou les tensions que peut créer ce genre de discussion. Cinquièmement, il s'agit d'aller demander de l'aide. Donc, comme on avait dit au début, dans les cas extrêmes par exemple, quand on se sent vraiment humilié et non respecté, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide au RH par exemple, ou à un autre collègue tout simplement, que vous sentez qu'il pourrait vous aider à confronter la personne qui vous met mal à l'aise. Et donc, voilà quelques astuces que nous vous proposons pour faire face aux situations toxiques et sexiste. Donc voilà quelques conseils et astuces qu'on vous a proposés pour confronter ce genre de situation sexiste et toxique dans le milieu professionnel. Mais finalement, il faut également éviter de tomber dans l'exagération et de tout relier au sexisme, parce que c'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a certaines dames qui considèrent que, par exemple, si on leur adresse une remarque négative au boulot, c'est que le chef déteste les femmes, c'est que c'est un acte de discrimination, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Donc, il faut rester objectif et ne pas avoir le complexe d'infériorité. Parce que il y a pas mal de coachs de vie qui disent que l'une des principales raisons qui font que l'on comprend mal le message qu'on nous transmet ou qu'on l'interprète mal, c'est du fait du manque de confiance en soi. Et là, je finirai avec une belle citation de la fameuse Beyoncé.
El famoso.
Oui. Le monde te verra de la même façon que tu te vois et te traitera de la même façon que tu te traites.
Merci beaucoup, Rim, pour ta chronique que je trouve toujours aussi intéressante.
Merci.
On va se faire une petite pause musicale, chers auditeurs et auditrices. On va écouter The Drunk de l'artiste The Living Tombstone. À tout de suite. Responsible night for a polite
to a past fraternity. And certainly a perfectly normal and formal get-together, but it's been forever since we gathered, so whatever. For the sake of the old times, proceed with tequila shots with a dish full of cold lines, a whole nine, laughing, remembering all the old lines. Never used to work, but I could give them another try. You know, take the edge off. I've had a hard week. I deserve to get soft. Pick up another round as my friends depart, and they may not stick around, but I just got started.
Feel so much better than usual. I'm feeling disputable.
We're the Dom Perignon from the back of the top shelf. Spend like God, put on airs to sell it. Crowd pretends not to care, but I know they're jealous. Let's let the dogs of war. I'm gonna start a fucking riot till I'm tossed out the front door. 0 to 60, I can turn on a dime. I'm hitting bottom and I'm feeling like committing a crime. Maybe I've lost count. I can't remember the night, what I drank, or the amount. I'm fading in and out, my very consciousness is crumbling. Sorry, was I saying something? Strolling out of the hospital, is it hair of the dog? If you stay drunk and don't stop at all, another night, losing it more than I can afford. Was I just feeling bored? Am I that insecure?
Feel so much better than usual. I'm feeling disputable.
Sur Radio G 101.5 FM, vous écoutez toujours l'étudiant Time. Maintenant, après la chronique de Rime sur le sexisme ordinaire au travail, on va avoir un petit peu plus de gaieté, un peu plus de verdure, des petites fleurs, des chèvres aussi, parce que on va aller voir le jardin des plantes. Et le jardin des plantes, effectivement, il y a des statues, il y a des canards, 4 hectares de verdure, et en plein centre-ville. C'est un endroit merveilleux, mais qui a une grande histoire. Il est situé sur le boulevard Carnot, à côté du centre des congrès. Et en France, les jardins ont une histoire assez récente. Les jardins publics, en fait, apparaissent à partir du 19e siècle. Avant, la bourgeoisie n'était pas réellement existante et les gens avaient leur propre jardin privé. Donc, avec un développement en fait des emplois avec moins de temps horaire, les gens ne travaillaient plus 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et bien les employés voient leur temps de travail diminuer petit à petit pour au final avoir un peu de temps libre. Les jardins, qui étaient tous privés, commencent alors à s'ouvrir un petit peu à la demande des citoyens. Notre jardin des plantes à Angers a pour origine première un jardin botanique privé pour des étudiants en horticulture. L'horticulture, si jamais, c'est l'étude des plantes, l'étude des fleurs notamment. Angers était déjà à la fin du XVIIIe siècle un centre d'horticulture et de botanique. Et on verra dans la deuxième partie de ma chronique que Angers est une capitale d'horticulture. Mais je vous en parlerai plus à la fin. Donc cette entreprise privée pour les étudiants était co-tenu par les botanophiles. Il possédait ce jardin, rue Bressigny, et il décide d'acheter 4 hectares de terrain aux moines de l'abbaye de Saint-Serge en 1789. Donc en pleine révolution, enfin la même année que la révolution, ils se disent « Oui, bon, assez de morts, on va essayer de faire un petit peu plus de fleurs, plus de plantes, ça va être joli. » Et on peut d'ailleurs noter que c'est durant la Révolution française, donc durant cette année, qu'ils ont acheté des terrains à une structure religieuse. On le sait, hein, durant la Révolution française, les propriétés religieuses vont être complètement nationalisées, privées de leurs biens, et ça va être pas très joyeux justement pour les religieux de cette époque. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est quand même à noter qu'il y avait une abbaye qui possédait énormément de terres, donc en plein centre, enfin aujourd'hui ce qui est le centre-ville. À la fin du 19e siècle, Auguste Giffard, un citoyen généreux, offre à la ville des statues qui peuplent encore aujourd'hui le jardin des plantes. Depuis cette époque, de plus en plus de statues sont venues tenir compagnie aux compositions florales. Des sculptures de David d'Angers ou François Cacheux y sont présentes, par exemple. Après plus d'un siècle d'existence, le jardin, peu rénové, voit ses portes fermées au public en 1905, suite à une tempête très violente qui dévaste le jardin. Édouard André est mandaté pour remettre à neuf le jardin. Mais cet Édouard André n'est pas un homme normal, c'est pas un simple paysagiste. C'est LE paysagiste, un des plus renommés de France, qui travaille même pour les couronnes étrangères tellement ses talents sont admirés. Il décide donc de modifier le jardin des plantes pour lui donner un style de jardin à l'anglaise. Ce style comprend des sentiers sinueux, des lignes de verdure aux formes irrégulières, un petit peu comme de l'art abstrait si on veut, rendant ainsi une atmosphère plus frivole et plus romantique à ce jardin. C'est à opposer au style français très linéaire, très carré, qu'on voit donc au jardin de Versailles par exemple, mais aussi juste à côté au jardin du Bail. Jardin du Bail qui est très droit, très carré, un style de jardin à la française. Donc ce jardin a vraiment connu une belle évolution. D'un simple jardin de travail privé, rue Bressigny à la fin du XVIIIe siècle, il devient un grand jardin public, et en plus très plébiscité. Il est restauré et réaménagé en 1905 par un des grands noms de paysagisme, et ce jardin est aujourd'hui rayonnant de ses quelques 25 000 plantes permanentes et 30 000 autres plantes qui viennent et s'en vont au fil des saisons. Pour vous donner une idée tout de même, là pour ces chiffres, il y a 200 ans, il n'y avait que 2000 plantes. Aujourd'hui, on en est à presque 50 000 tout cumulé. Et ça me permet de vous parler justement des fleurs. Oh là là. Parce que Angers est une capitale européenne. On le voit régulièrement en ce moment, Angers, ville européenne. Mais cela est dû en partie grâce à notre bon roi René. Angers, c'est la capitale. Non. Bon, c'est pas une punchline de mon nouveau roi morceau de rap, même si, j'avoue, ça pourrait bien rendre « Capitale de mon cœur, capitale des fleurs, tu m'emplis de bonheur et quand je suis loin de toi, j'en pleure. Ouais. » Ouais, je sais, Rime, tu es impressionné, s'il te plaît, réagis, dis-moi que c'est génial. C'est dommage.
Non, en fait, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand tu avais dit que le jardin des plantes, il est fait à l'anglaise. Et du coup, je savais pas qu'il y avait une grande différence. Enfin, il y avait deux styles, tu vois, d'architecture dans les jardins. C'est une découverte pour moi.
Mais c'est comme la scénographie en théâtre ou bien en exposition, en musée, etc. Il y a énormément de manières de présenter les choses. Mais du coup, je reviens sur mon rap merveilleux. Non, mais du coup, je rigole. Angers, c'est du coup réellement une capitale européenne. Donc elle accueille aussi, depuis 1996, la structure de l'Union Européenne, l'Office Communautaire des Variétés Végétales, qui en gros surveille que les plantes, que les fleurs notamment, soient pas croisées génétiquement, en gros qu'il y ait bien le respect du droit d'auteur, entre guillemets, du droit de propriété sur telle espèce et telle espèce, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, etc. Mais bon, du coup, cette chronique sur le thème du végétal, moi, ça me rend jovial. Là, je vous parle des fleurs, les fleurs qui sont si belles et d'ailleurs qui sont très anciennes. Elles sont arrivées dans le monde il y a quelques 150 millions d'années et elles servaient de repas à nos ancêtres, les dinosaures herbivores. Eh oui. Bon, du coup, les fleurs, elles sont là depuis longtemps et les humains se sont très rapidement intéressés à ces beautés fatales. Dès l'Antiquité, elles entrent dans la mythologie. Le printemps était représenté par une déesse qui sème les fleurs. la floraison des bourgeons résistant à la rudesse de l'hiver est presque miraculeuse. On se rend compte qu'il y a des choses si belles qui arrivent à rester malgré la froideur forte de l'hiver. Donc c'est forcément l'œuvre des dieux. Que ce soit l'œuvre de Vénus, la déesse de l'amour, ou Dionysos, le dieu des fêtes et du vin. Au Moyen-Âge, l'amour courtois accompagne ces couleurs idylliques. Elles sont dans le paysage des œuvres d'artistes. On le voit par exemple avec la tapisserie de l'Apocalypse, où les lys et d'autres fleurs sont présentes. Tiens d'ailleurs, savez-vous où cette fleur de lys est également présente au Moyen-Âge ? Elle est présente, la fleur de lys, en France, sur des représentations royales. Est-ce que ça te dit quelque chose, Rhythm ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est le symbole de la famille royale, puisqu'elle est sur le drapeau de la royauté. C'est les fleurs de lys, en fait, c'est le fond bleu avec des petites fleurs de lys dorées. C'est ça. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on fait des guerres ou les atrocités sont légion qu'on ne peut pas mettre une jolie fleur sur son drapeau. Et oui, mon Dieu, la nature humaine est particulière. Donc, venons-en à notre jolie petite ville, capitale du végétal, Angers. On y produit 6 millions de plants chaque année destinés à l'exportation, ce qui est quand même beaucoup. Donc, on peut remercier le roi René pour cet engouement pour les plantes, puisque lors de son règne, il a apporté de nombreuses plantes dans l'Anjou. Et oui, on pense que le Moyen-Âge, c'est des gros châteaux bien lourds où les paysans, ils mangent des racines, mais c'est pas que ça. Donc oui, les gens mangent pas que des cordons bleus, hein, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas coupés du monde. Les guerres de religion, donc avec les croisades, vont permettre de ramener énormément de connaissances et des produits des pays orientaux. Donc évidemment, ils ont ramené dans leur coffre des oranges, des prunes et des variétés inconnues de fleurs. C'est retransmis aujourd'hui par nos employés du château d'Angers, puisqu'ils ont un petit jardin où ils ont fait cultiver les plantes ramenées durant les croisades, ramenées par le roi René. Il y a un jardin spécifique, et puis même, donc, je vous disais, dans la tapisserie de l'Apocalypse, il y a des fleurs assez diverses. Donc voilà, on a fait en près de 1000 ans, les fleurs sont arrivées à Angers, le jardin des plantes a été créé, et l'Union européenne désigne Angers comme le centre de l'horticulture. Comme quoi, il y a énormément d'histoires à Angers, c'est ça qui est merveilleux.
Oui, franchement, merci beaucoup Robin. Je pense que ta chronique, c'est la meilleure invitation pour nos chers auditeurs, ainsi que pour moi, pour visiter le jardin des plantes, mais en ayant beaucoup d'informations. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, nos chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter notre émission en entier si vous l'avez ratée ou si vous avez raté le début sur radio-g.fr ou bien sur Spotify. Et il y aura également nos anciennes émissions. Donc, n'hésitez pas à les écouter aussi. Et à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines. Bonne journée.
Radio G. 101.5 FM.